Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, émission souriante, le magazine d'industrie culturelle et du numérique en direct jusqu'à 20h30. Ce soir, on parle, je l'ai dit, de Marianne et de Natacha Polony. La directrice de Marianne est mon invitée ce soir. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Vous êtes arrivée à la direction de Marianne, l'hebdomadaire Marianne, en septembre dernier, depuis 9 mois. Donc, ça y est, vous avez, comment dire, pris vos marques à la tête du journal.
Vous savez, ça prend du temps. C'est une machinerie absolument énorme. Donc oui, je commence à peu près à voir
où on va. Quel est l'ADN? Quel est le projet?
Oh, ça, l'ADN, je le connais depuis longtemps. Le projet, je l'avais. C'est ensuite la mécanique, produire un hebdomadaire de qualité toutes les semaines. C'est une tension, c'est un travail totalement prenant.
Avec vous, nous reviendrons sur votre parcours. On parlera de Marianne, bien sûr, de son ADN, de sa rédaction, de son actionnaire aussi, de votre projet. Et bien sûr, l'actualité, notamment sur les positions et vos positions concernant les Gilets jaunes, par exemple, ou encore les élections européennes. Ce sera en début d'émission. Toujours au sommaire de Soft Power, on parlera du film Avengers Endgame, fin de partie, qu'on a enfin réussi à voir.
Parlez
et
pour vous,
Frédéric. Puis, en seconde partie d'émission, à 20h, l'invité Innovation ce soir avec vous.
C'est Étienne Huvert, le journaliste prix Albert Londres, qui signe à la fois un livre aux éditions Stock, Les Nouvelles Guerres sur la piste des hackers russes, et un film qui sera diffusé sur Arte mardi prochain, Les Nouvelles Mercenaires Russes, où il a enquêté pendant 2 ans pour essayer d'entrer en contact et de comprendre comment fonctionnent ces fameux hackers russes, qui travaillent-ils pour le Kremlin ou pas, quels sont les types d'attaques qu'ils sont capables de mettre en œuvre, et surtout, quel est leur programme, en ont-ils seulement un?
20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de la modération des contenus haineux en ligne. Et nous serons pour en parler avec Amaël Guiton de Libération et Christian Paul, ancien ministre et enseignant à Sciences Po Lyon. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est réalisée par Émilie Vallat avec en régie Jean Frédérics. Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power, et en podcast chaque semaine sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Vous pouvez vous y abonner sur ces différentes plateformes. Soft Power jusqu'à 20h30 sur France Culture en direct. La semaine dernière, nous évoquions dans cette émission Avengers, la dernière franchise Marvel que nous n'avions pas pu voir, faute de tickets disponibles dans les cinémas parisiens. Un succès qui s'est depuis confirmé au box-office, Avengers fin de partie, et déjà est tout simplement le film le plus successful, comme on dit, de tous les temps. Ce soir, il atteint les 2 milliards de dollars de box-office mondial en moins de 10 jours, dépassant ainsi Titanic et probablement sous peu Avatar. Loin devant Star Wars ou Harry Potter, meilleur démarrage de l'histoire, meilleur premier week-end, le film bat 22 records, toutes catégories. En France, 3,5 millions de Français, chiffre inouï, s'il en est, ont vu le film dès la première semaine de sa sortie. Jamais les queues dans les cinémas n'ont été aussi longues à Paris. En Chine même, le film bat tous les records, ce qui confirmera Hollywood dans sa stratégie globale, universelle et bien sûr dans sa priorité accordée aux films de super-héros. Alors face à cette déferlante annoncée, on peut toutefois apporter une première nuance. Lorsqu'on parle d'un succès au box-office américain ou mondial, on parle en recettes, c'est-à-dire en dollars, et non pas en nombre d'entrées. Comme les prix des tickets de cinéma connaissent une inflation spectaculaire chaque année, bien au-delà de l'économie générale, il est normal que Avengers fasse plus que Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Si on annulait les effets de l'inflation, le succès serait bien moins grand. Ainsi en France, où l'on compte en nombre de spectateurs et non à la somme de dollars récoltés, le dernier Avenger est seulement en 6e position derrière Bienvenue chez les Chi, par exemple, ou les Bronzés 3 pour prendre ces trois titres de film. Reste que ce succès est historique et qu'il a plongé les critiques de cinéma dans ce qu'il faut bien appeler une véritable paralysie intellectuelle. Vendredi, j'ai discuté avec l'un d'entre eux qui m'a dit, je le cite, « Je suis allé voir le film 2 fois avec mon fils. Il a adoré ce film, vraiment adoré. Il connaissait tous les personnages par cœur, toutes les intrigues, et moi, je n'ai rien compris. » C'est un peu d'ailleurs ce qui nous arrive à nous. Au fond, la plupart des critiques de cinéma sont décontenancées par le succès titanesque d'un film qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas les codes, nous non plus. Alors ils le surestiment grandement, ce qui est une erreur par addition, ou le sous-estiment tout aussi gravement, ce qui est une autre erreur, cette fois par soustraction. Condescendant et paternaliste, le célèbre critique Anthony Lane, dans le New Yorker, propose au public de partir au milieu du film pour aller faire les courses et de revenir après une heure. « Vous n'aurez rien raté », écrit-il. Quand on voit des millions de personnes prêtes à attendre plusieurs heures pour assister à une séance d'Avengers, on peut s'étonner d'un tel élitisme un peu mesquin. Dans Le Monde, Thomas Sentinel est tout aussi misanthrope. Les scènes de ce film, les images, écrit-il, on les a toutes vues, ce qui bien sûr est faux. Sa courte critique sur un film, que verront probablement 5 millions de Français, est relégué en bas de page sous un article de 6 colonnes consacré à un metteur en scène d'opéra que quelques centaines de Français bien nés ou fort riches verront. Bref, Thomas Sentinel n'a rien compris au film, ni à l'univers Marvel, ni au cinéma populaire et mainstream en général. D'ailleurs, il nous donne la clé de son incompréhension. Avant de voir le film, il faudrait, écrit-il, ingurgiter une somme de connaissances que d'aucuns considèrent comme inutiles. Ouais, voilà. Il ne parle pas du film, ni de ses spectateurs, mais de lui, qui ne possède pas, dit-il, les codes de cette culture mainstream. En fait, le film constitue un incroyable univers culturel en lui-même. Le dernier Avengers ne peut pas être isolé de la vingtaine de films Marvel qui le précèdent et dont il est la formidable apothéose, la fin d'un cycle un peu comme, disons, le temps retrouvé de Proust ou le crépuscule des dieux de Wagner. Ces références à Proust, et en l'occurrence aussi à Aristote, ne sont pas de moi, mais de la critique du New Yorker Maya Phillips, qui est, elle, dit dithyrambique sur l'univers Marvel. Elle salue d'ailleurs son plus célèbre créateur, le génie Stan Lee, ce qui prouve une nouvelle fois que derrière les succès hollywoodiens, il n'y a pas que de l'argent, des studios et des acteurs. En dépit d'un des plus beaux castings, l'un des plus oscarisés de l'histoire du cinéma américain récente, il y a d'abord des auteurs. La complexité du monde de Marvel, déjà grande dans chaque film isolé, devient phénoménale dans Avengers, fin de partie, qui les résume tous. Il faut connaître par cœur les Spider-Man, tous les Thor, les Captain America, les Shrek, sans oublier Black Panther, Black Widow, Ant-Man ou Iron Man, pour avoir une chance de piger ce qui se passe durant ces presque 3 heures de film. Et comme Disney vient de racheter la 20th Century Fox, on peut penser qu'il faudra y ajouter bientôt de nouveaux super-héros, tels Deadpool, les X-Men ou The Fantastic Four, pour pouvoir se repérer dans cet univers tout en poupées russes. Ce qui est intéressant dans cet univers, justement, c'est sa complexité emboîtée. Tous ceux qui n'y voient qu'un cinéma d'uniformité se trompent totalement. C'est un cinéma d'une incroyable richesse, d'une complexité d'intrigues, de personnages et de références, comme le sont aussi Game of Thrones ou les chansons du rappeur Kendrick Lamar dans un tout autre genre. Au fond, chaque personnage de Marvel possède son monde en lui. Il est indépendant et se comprend dans ses propres codes. Et voici que Avengers est la somme de ces mondes et de ses codes. Le génie du film, c'est de croiser ces histoires, de combler les trous et de donner de la cohérence à des personnages qui n'ont été pensés que partiellement pour vivre ensemble. Avengers, c'est le monde commun des super-héros. C'est un peu comme la comédie humaine de Balzac. Tout à coup, un personnage du père Goriot réapparaît dans l'illusion perdue et tout prend sens à travers de nouvelles narrations et stories en dépit des incohérences d'origine. Chaque pièce du puzzle s'agrège aux autres, formant bientôt un tout. Les super-héros acceptent de perdre en égo pour rejoindre leur père et faire équipe dans The Avengers, le grand film team player de notre époque. Mais il faut avoir tout vu pour suivre. On peut connaître les Spider-Man, ce qui est mon cas, et ne pas bien comprendre Captain America. On peut avoir adoré Black Panther et avoir ignoré Shrek. Voilà comment on se paume. L'incroyable sophistication du système Marvel échappe donc à la plupart des critiques, et pour une part d'ailleurs à nous qui sommes tous complètement largués quand des millions de jeunes de 12 à 18 ans sont fascinés par un code qu'ils sont les seuls à décrypter, voyageant dans les espaces Marvel et remontant dans le temps. Et voici pourquoi.
Il a encore utilisé les pierres.
Hé, je vous rappelle qu'on est en infériorité, d'accord?
Et il a encore les pierres, alors?
On les lui vole? Et on s'en sert pour ramener tout le monde?
En claquant des doigts?
Oui, en claquant des doigts.
Même si nous n'avons qu'une chance infime de défaire ce qu'il a fait, je pense qu'on le doit à tous ceux qui ne sont plus avec nous dans cette pièce.
Et si on se lance, comment être sûr d'arriver à un résultat différent de celui de la première fois?
La première fois, vous ne m'aviez pas.
Hé, hey, la nouvelle. Toutes les personnes ici présentes mènent une vie de super-héros. Et si je peux me permettre, qu'est-ce que tu foutais toi pendant tout ce temps?
Il y a des tas d'autres planètes dans l'univers qui n'ont pas eu la chance de vous avoir.
La clé du succès d'Avengers, c'est bien sûr non pas le voyage dans l'espace, mais on vient de l'entendre, la remontée dans le temps. La critique Maya Phillips compare d'ailleurs le film à Ulysse pour la complexité de ses voyages dans le temps. On savait que Spider-Man, Doctor Strange et Black Panther avaient été tués. On ne pouvait plus espérer les revoir. Pas plus d'ailleurs que Shrek, qui n'est pas dans cette trilogie et dans ce succès, puisqu'il s'agit de Hulk. Vous voyez, on s'y perd. Sauf si le film nous permettait de remonter dans le temps, 5 ans plus tôt en l'occurrence, et de permettre à ses héros d'avoir une seconde chance, une seconde vie, de pouvoir réécrire l'histoire pour revivre. Certains super-héros remontent même le temps jusqu'à leur naissance, au risque de tuer leurs propres parents et de ne jamais exister. Sans trop spoiler Avengers, on peut dire que c'est sur cette intrigue géniale que repose le succès du film. La génération Marvel touche-t-elle à sa fin ? Rien n'est moins sûr. Endgame annonce plus la fin d'un cycle que la fin, la vraie fin finale. On annonce déjà un nouveau Spider-Man et des sequels et des préquels de nombreux autres Marvel, sans oublier les personnages, je l'ai dit, qui vont rejoindre bientôt l'univers Marvel de Disney. Pourquoi pas Shrek ? Nous verrons. Pourquoi les critiques sont-ils à ce point à la ramasse sur la pop culture ? D'abord parce qu'ils n'en comprennent pas la créativité et l'innovation. Les studios hollywoodiens étant d'autant plus créatifs qu'ils se nourrissent de dizaines de studios indépendants et de milliers de talents, tous au générique final proprement hallucinant d'Avengers. Ensuite, parce que cette culture pop les ennuie. Il est vrai que les presque 3 heures de Avengers peuvent paraître longues à ceux qui n'ont pas les codes. Les critiques sont au fond malheureux que les spectateurs puissent être heureux en voyant pendant ces 3 heures Avengers. Le jour où j'y étais, le public a applaudi à tout rompre à la fin du film. Par hostilité à l'encontre des studios, les critiques ne comprennent guère non plus les franchises qu'ils prennent pour des répliques et des films d'action tous identiques, alors que les scènes d'amitié et d'amour où les personnages se contentent tout simplement de passer du bon temps ensemble sont bien plus importantes dans Avengers que les scènes de guerre, même si la bataille finale est réellement fascinante. Les critiques rejettent le divertissement et sa disneyfication comme une partie en soi du cinéma, oubliant la formule de Serge Danet qui nous mettait en garde en rappelant que le cinéma s'était construit sur 2 jambes, une jambe intellectuelle et une jambe populaire. Il ne tient jamais droit s'il est unijambiste et Avengers tient debout sur l'art autant que sur le divertissement. Au fond, les films de super-héros sont les héritiers des westerns, sans les chevaux, encore que dans Black Panther, il y a des animaux. Bref, un jour, les critiques reconnaîtront peut-être que c'est sans doute dans ce type de film que se cachait une part de la créativité d'Hollywood, comme la nouvelle vague l'a fait a posteriori avec les films de Howard Hawks. Enfin, il y a beaucoup d'anti-américanisme et disons un peu de gauchisme culturel pour expliquer la misanthropie des critiques de cinéma. Le gauchisme culturel est bien la faillite des pages culturelles des médias étrangers et français. Le critique ne peut pas supporter que ces jeunes nerds culturels dépensent leur argent pour de tels films sans se rendre compte qu'ils ont en fait beaucoup plus, qu'ils en ont beaucoup plus pour leur argent avec Avengers qu'avec avec un seul ticket qu'avec tous les films français sortis depuis le début de l'année. Ils taxent le cinéma de dépolitiser alors qu'ils sont politiques, je dirais d'une autre façon, par exemple sur la question noire, sur la question du pouvoir des femmes ou encore sur la guerre qui ne s'arrête jamais, celle que mènent par exemple les États-Unis. Alors pourquoi ces super-héros d'Avengers se battent-ils ? Pour quelle bataille ? Pour quelle cause ? Contre quels ennemis ? Au vrai, on ne sait, c'est là sans doute la limite du film, même si c'est aussi la clé de son succès. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose de plus dans la mélancolie des critiques de cinéma, c'est le sentiment de l'inutilité. Les critiques ont beau se battre pour que personne, absolument personne, n'aille voir Avengers et le public s'y précipite toujours plus nombreux. Quand on devient à ce point inutile et minoritaire, on ne peut qu'entrer en résistance et faire d'une faiblesse une fierté, une force, disons, la fierté des perdants en somme. Mais dans Avengers, même les vilains sont des super vilains et ils savent perdre dans la grandeur. Avengers Endgame dans tous les multiplexes de France. France Culture, 19h15.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Notre invitée ce soir, Natacha Polony, la directrice de Marianne. Rebonsoir, madame.
Bonsoir.
Vous êtes une Avengers finalement. Vous rejoignez une nouvelle équipe et vous... Vous êtes team player dans Marianne. Vous avez travaillé à l'époque et où vous revenez. On va revenir sur votre parcours et sur ce journal. Peut-être deux questions d'actualité pour commencer cette émission. Hier, il y avait l'acte 25. On les compte plus, on se trompe sur les chiffres. Des gilets jaunes. On a du mal à comprendre la position parfois de Marianne sur les gilets jaunes, très critiquée, par exemple par Denis Oliven qui a fait un papier il y a quelques semaines, très très défendue par beaucoup d'autres dans Marianne. Vous pensez quoi des gilets jaunes?
D'abord parce que Marianne se veut un journal pluraliste.
Et
donc
de débat.
Nous mettons un point d'honneur à faire entendre des points de vue qui ne sont pas forcément ceux du journal. Donc nous avons publié en effet une tribune de Denis Oliven sous le titre, enfin il y a une tétière qui existe à Marianne, il ne pense pas forcément comme nous. De même, nous avons fait attention à aller interroger des intellectuels qui n'étaient pas forcément sur les positions qui était donné par l'éditorial du journal. Par exemple, nous avons donné la parole à Dominique Schnapper, qui n'était pas sur la ligne que nous suivions. Parce que c'est important d'avoir ces points de vue. Mais la ligne de Marianne, notre travail sur les Gilets jaunes depuis que ce mouvement a surgi, ça a été d'essayer surtout de ne pas être dans la réaction épidermique d'admiration béate pour le surgissement populaire, ni de mépris de classe pour quelque chose qui nous aurait fait peur. Parce que j'ai vu beaucoup dans les médias cette réaction-là et je l'ai trouvée extrêmement violente et frappante. De même que certains partis politiques, en essayant de récupérer et en étant au contraire dans l'aveuglement total sur certaines dérives du mouvement, m'ont semblé être totalement à côté de la plaque. Donc je pense que c'est un mouvement qui est passionnant parce qu'il nous raconte quelque chose qui travaillait la France depuis très longtemps. C'est un mouvement qui vient vraiment des tréfonds du pays et en cela, il doit être analysé, réfléchi. Le dossier qu'a fait la revue Le Débat là, ce mois-ci est absolument formidable. On y lit des choses essentielles pour comprendre exactement ce qui se passe. Je pense que c'est ce travail-là qu'il faut faire, ce travail d'analyse, sans passion, sans détestation, sans haine. Or, hélas, depuis quelques mois, il y a eu beaucoup de haine de tous les côtés en France.
Vous avez fait plusieurs unes, dont certaines plutôt, on va dire, favorables ou qui défendaient plutôt l'idée des gilets jaunes malmenés par la politique, et hautement taxés, etc. Comment est-ce que vous regardez la défiance qui, au sein parfois de certains, disons pas partisans de ce mouvement, parce qu'on n'est pas sûr qu'on puisse parler d'un mouvement, existe envers les médias, justement?
Je pense que là aussi, ça nous raconte l'état du pays. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les gilets jaunes. D'ailleurs, les gilets jaunes, ça ne veut plus dire grand-chose. Plus personne ne sait de quoi on parle quand on parle de ça. Parle-t-on des premières personnes qui sont allées manifester le 17 novembre ou parle-t-on de ceux qui, encore aujourd'hui, manifestent? Ça n'a plus aucun sens. En revanche, ce mouvement a révélé une défiance absolument majeure vis-à-vis des médias et nous devons, nous, journalistes, nous poser la question des raisons de cette défiance. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre ce qui fait que petit à petit, les citoyens ont décroché, qu'ils estiment que nous appartenons à ces institutions dont ils pensent qu'elles ont trahi. Enfin, en tout cas pour beaucoup de citoyens, c'est pas la totalité, mais beaucoup de citoyens en France pensent que les institutions en général ne défendent plus leurs intérêts et nous, journalistes, nous sommes mis dedans. Pourquoi? C'est la question à se poser.
Elles ont marché en kiosque, ces fameuses unes, vous en avez fait au moins trois.
Nous avons... Oui, parce que quand il y a une actualité extrêmement forte qui capte l'attention de tout le pays, quand on sent qu'il se passe quelque chose, les gens ont envie, là, de lire du décryptage, de l'analyse, et donc, en général, ils achètent des journaux. Et c'est vrai que nous avons essayé à Marianne de tenir une ligne qui était, j'allais dire, une ligne de crête. C'est-à-dire que c'était assez compliqué, encore une fois, de pointer les dérives du mouvement, de dire quand il y avait de l'antisémitisme, et il y en a eu, quand il y avait du
djihadisme,
de la violence, de la haine, et en même temps, pour autant, de ne pas s'interdire de lire ce que racontait ce mouvement. Vous savez, la Révolution française, il y a eu les sans-culottes. Ils étaient épouvantables, les sans-culottes, mais ça n'invalide pas ce que voulait être la Révolution. Et bien là, c'est à peu près le même processus. Ça nous raconte un mouvement des petites classes moyennes qui se sentent abandonnées, qui ont l'impression de ne pas être traitées en tant que citoyens à parts égales, qu'ensuite les plus radicaux aient pris le pas, que ça dérive peu importe, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi le pays en arrive à un tel point de fracture, de désespoir. C'est cela qui est important.
C'est les working poor blancs dont parlait notamment Florence Aubenas dans le Quai de West Ham, pour une part.
Alors, je vais vous dire, je ne pense pas que ce soit une question de couleur de peau. C'est une question sociale. Et c'est ça qui était intéressant aussi dans ce mouvement, c'est que quand il a émergé, il n'y était pas question de différenciation ethnique, de différenciation d'origine. On était dans un mouvement social de petite classe moyenne, c'est-à-dire de gens qui devraient pouvoir vivre de leur travail et qui ne peuvent pas, quelle que soit leur origine. On a beaucoup parlé du concept de France périphérique qui a ressurgi, mais c'est un concept qui est extrêmement large. En général, quand on parle de ça, on entend petit pavillon en grande banlieue, mais ce n'est pas seulement ça. C'est toute cette France qui est condamnée à utiliser sa voiture pour des déplacements parce que la désindustrialisation a fait que des petites villes sont en train de mourir un peu partout, que
des banlieues alors même qu'elles...
Bien sûr. Vous savez, 82% des emplois dans les 10 dernières années ont été créés dans des métropoles. Ça veut dire que tout le reste du territoire est en train de sombrer. Or, jusqu'à présent, ces territoires sombraient en silence.
Mais en même temps, c'est un mouvement très anti-fiscal, et c'est par la fiscalité que, pour une part, on met des hôpitaux de proximité, on remet des mairies, on garde des bureaux de poste. Donc il y a une contradiction, comme vous le savez, bien sûr, et vous l'avez analysé, très forte dans ce mouvement.
Mais il n'y a pas de contradiction de la part de ces citoyens.
De vouloir
la
fois pas payer d'impôts et plus d'argent pour l'État.
Mais c'est pas ça, c'est tout simplement une révolte contre ce qui apparaissait comme une injustice. Souvenons-nous du point de départ. Le point de départ, c'est de dire à des gens qui sont que l'ensemble du système économique a contraint à être dépendant de leur voiture, de leur dire, eh bien, pour la transition écologique, on va vous taxer, sachant que transition écologique ou pas, ils ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture. Donc ils seront obligés de payer. Et ils seront obligés de payer pourquoi ? Parce qu'un système économique a petit à petit éloigné les lieux de travail des lieux d'habitation, a renchéri les loyers et le prix de l'immobilier dans les grandes villes et a paupérisé les petites villes moyennes, ce qui fait qu'il n'y a plus d'emploi, donc on ne peut plus habiter là. Voilà, c'est tout ce système-là. C'est le fait qu'on est obligé en effet de faire construire dans le neuf parce que ça coûte un argent fou d'entretenir du bâti qui est du bâti ancien, qui du coup se délabre un peu partout et on construit de plus en plus loin. C'est toute cette mécanique qui est enclenchée depuis des décennies. C'est la destruction des commerces de centre-ville au profit de la grande distribution. Là aussi, vous ne pouvez pas y aller si vous n'avez pas de voiture. C'est tout ça qui était derrière et on leur dit tout à coup, ah, vous êtes coupable et vous êtes coupable de la fin du monde. Enfin, attendez, c'est évidemment que ça provoque une révolte.
Dans quelques semaines, il y aura des élections européennes, ça ne vous a pas échappé, nous non plus. Quelle est la ligne, si tant est qu'il y ait une ligne, ce qui n'est pas obligatoire pour un journal d'ailleurs, d'avoir une ligne de Marianne par rapport à ces élections ?
C'est avant tout de faire notre travail, c'est-à-dire de faire émerger les débats, les véritables débats. Vous aurez remarqué qu'il y a des élections le 26 mai, il n'y a pas de campagne. Ou quasiment pas. C'est un désert absolu. On se contente de quelques slogans ici ou là, mais aucune question de fond n'est abordée. Donc nous avons pris le parti d'essayer de poser les problèmes tels qu'ils devraient être, c'est-à-dire de consacrer un dossier par exemple à ce à quoi devrait servir l'Union européenne. Donc quelles sont les souverainetés que doit garantir l'Union européenne ? En quoi elle peut faire en sorte que les citoyens européens soient indépendants ? Donc nous avons analysé la question de l'énergie, la question du numérique, la question de la défense. Ensuite nous avons consacré un dossier au lobby européen. Comment cela fonctionne? Qui prend le pouvoir? Est-ce que finalement, les plus grands lobbyistes en Europe, ce ne sont pas les Allemands qui défendent l'industrie allemande? Vous voyez tout ce genre d'analyse. Nous préparons un dossier pour la semaine prochaine sur la question de savoir où va l'argent de l'Europe. Pareil, on va essayer de décrypter, de savoir comment c'est distribué, à la fois par pays, par secteur, par domaine. Voilà, essayer de montrer aux citoyens comment tout cela fonctionne. Après, nous avons dans l'idée que nous devons défendre une Union européenne, mais pas forcément cette Union européenne. Vous voyez, c'est ça la différence. Et elle est essentielle. Nous ne confondons pas l'Europe et l'Union européenne telle qu'elle est.
Mais justement, en 2005, au moment du référendum sur la Constitution européenne, d'ailleurs, Marianne avait fait un sondage au sein de sa rédaction, et Jean-François Kahn avait d'ailleurs annoncé que c'était, à sa connaissance, l'une des seules rédactions où le non était majoritaire. Aujourd'hui, vous, on vous connaît pour des positions parfois souverainistes. Vous avez un débat qui existe au sein de la rédaction. Est-ce que vous seriez susceptible de faire ce genre de sondage, par exemple.
Mais bien sûr. Je pense que ça a toujours été dans la tradition de Marianne, parce que on l'a fait pour 2005. Marianne, alors à ce moment-là, on l'a fait en 2007. J'étais encore à Marianne et je n'étais plus en 2012. Mais je crois que ça a été fait aussi. Donc systématiquement pour les élections, il y a cette tradition d'essayer de voir comment se répartit la rédaction. Et on s'aperçoit d'ailleurs que c'est assez pluriel, mais sur 2005, ce qui était très intéressant, c'est que tous les éditorialistes et toute la direction votaient oui. Et le non l'emportait à 66%, mais c'était tous les journalistes de base de Marianne.
Avec des raisons différentes, c'est ça qui est intéressant.
Ah mais bien sûr, mais toujours. Mais en France, dans le pays, il y avait des raisons différentes. Mais il y a ce même clivage apparaissait partout dans le pays et à peu près dans toutes les entreprises. Et Jean-François Kahn a eu l'intelligence de comprendre que il était en train de se passer quelque chose. Et que contrairement aux autres journaux qui expliquaient que voter non, c'était être xénophobe, etc., il fallait faire vivre le débat.
Natacha Polony est directrice de Marianne. Elle est l'invitée de Soft Power ce soir. On vous retrouve dans un instant, juste après, pour clore cette séquence, je dirais, d'actualité de la semaine. Anderson .Paak, révélé au grand public par Dr. Dre. Âgé aujourd'hui de 33 ans, Anderson .Paak sort son quatrième album, Ventura, dont nous écoutons un extrait, Make It Better, avec Smokey Robinson. Un album enregistré en 2017-2018, taillé pour les soirées barbecue le long des plages californiennes, nous dit les In Rock. Malgré le temps parisien de ce dimanche, on s'y croirait presque.
So much fun. So now, how could we both forget telling each other we're the one? We would make love at the drop of a hat. Remember that?
Yeah.
I remember you and me, close as any two can be. Now we're strangers in the night, awkward in the tight. Oh, baby, do.
19h28 sur France Culture, Natacha Polony est mon invitée ce soir. Natacha Polony, j'ai interrogé un peu tout au long de la semaine un certain nombre de vos collaborateurs, journalistes, aussi des gens qui travaillaient avec vous, qui travaillaient auparavant ou alors qui sont dans la direction de ce journal d'un point de vue plus capitalistique. Et alors, l'un d'entre eux me dit, au fond, Natacha, c'est quelqu'un qui vous aime bien, c'est une intellectuelle qui fait du journalisme. Ça vous plaît cette formule ou ça vous dérange ?
Disons que j'essaye de mêler les deux. Peut-être ai-je eu dans mon parcours journalistique parfois le défaut d'être avant tout quelqu'un qui intellectualisait, qui essayait de penser les choses. Mais justement, ayant conscience de cela, ce que je fais à Marianne, c'est toujours de partir des faits, de l'actualité, des dossiers. Simplement, je crois que nous souffrons aujourd'hui dans le journalisme en général, mais de toute façon même dans l'ensemble de la pensée politique, de la vision qu'on peut avoir de l'actualité, nous souffrons beaucoup d'une absence d'arrière-plan intellectuel, c'est-à-dire de recul, de capacité à ne pas être victime de l'instant présent.
Et cet arrière-plan, justement, alors vous êtes plus littéraire de formation, c'est d'ailleurs fréquent hein, parmi les journalistes, plus que philosophes ou politologues. Ce serait quoi vos références? Qu'est-ce qui vous a amené au journalisme? Ou quels seraient les auteurs, par exemple, que vous aimeriez citer comme des références de ce journalisme, au fond, d'idées, qu'on pourrait appeler un journalisme d'idées?
Mais pour moi, il n'y a pas de journalisme. Enfin, justement, il n'y a pas de journalisme d'idées. Vous voyez, la vieille.
Un journalisme avec un grand J, point final.
Il y a différentes manières de pratiquer le journalisme. Chaque journaliste a sa propre manière de composer entre ses connaissances, sa culture et sa vision du métier et sa capacité à aller faire de l'enquête et du reportage. Donc, ce n'est pas du journalisme d'idées. C'est simplement être capable de lire les faits, l'actualité, mais de les replacer dans un contexte. Encore une fois, c'est ça que j'essaye de faire. C'est-à-dire,
mais ce n'est pas une critique, je crois que c'est une formule d'Albert Camus d'ailleurs.
C'est pour ça que je ne le prends pas du tout comme une critique, mais c'est pour moi très important de dire qu'il me semble que le journalisme ne consiste pas simplement à raconter les faits, mais à replacer ces faits dans un contexte et à donner les clés pour comprendre. Et c'est ce qui s'est toujours pratiqué dans le journalisme sous toutes ses formes. Alors on a coutume de dire que le journalisme français est plus un journalisme d'opinion. Et c'est vrai qu'il y a eu des politiques qui étaient journalistes et des journalistes qui faisaient de la politique.
Oui, depuis Zola, depuis Hugo, d'autres.
Et ils n'étaient pas moins journalistes. Simplement, je pense que toute la complexité, c'est en effet d'être guidé par une forme d'honnêteté intellectuelle qui fait qu'on n'est pas partisan, qu'on n'est pas de parti pris à chaque fois face aux faits, qu'on accepte quand les faits viennent démentir vos a priori. C'est absolument essentiel.
Critiquer les siens, donc.
Oui, et se critiquer soi-même, et être remis en question en permanence. Mais être capable aussi de ne pas simplement être victime de l'actualité, parce que justement nous sommes dans une époque où cette actualité, elle est pétrie de communication. Elle est en permanence manipulée par des communicants. Et notre rôle aussi, c'est d'être capable, parce que nous avons du recul, parce que nous avons de la culture politique, de ne pas reprendre les mots de ces communicants.
De décrypter
mais
ça.
De prendre nos propres mots pour lire, parce que ces mots-là permettent de donner une vision, on va dire, un peu plus objective.
Alors, quand on suit votre parcours, évidemment, on se souvient de vos passes d'armes, souvent d'ailleurs en empathie ou en générosité avec vos confrères dans On n'est pas couché, vous avez été au Figaro, on vous retrouve sur Europe 1, aujourd'hui à Marianne. Dans chacune de ces positions, au fond, vous étiez essentiellement ce qu'on peut appeler, et c'est pas une critique non plus, une chroniqueuse. C'est des chroniques, des points de vue. Diriger une rédaction, c'est très différent, c'est d'abord, vous l'avez dit, un travail hebdomadaire, mais tout de suite, dès que le numéro paraît, il faut penser au suivant. Vous étiez préparé, vous étiez armé pour, au fond, diriger des hommes et des femmes, pour animer une rédaction, discuter avec un actionnaire. Vous étiez préparé à cette
Alors, il y a différentes choses. Disons d'abord que j'ai fait pendant 6 ans une revue de presse, c'est-à-dire que pendant 6 ans, j'ai lu tous les jours toute la presse quotidienne, hebdo, mensuelle, ce qui donne un certain recul sur le mode de fonctionnement des journaux et sur la façon dont on construit un journal. D'autant qu'une revue de presse, c'est en fait une espèce de conférence de rédaction personnelle où on choisit justement quels sont les faits d'actualité qu'on va sélectionner. On se demande pourquoi on sélectionne cela, ce qu'on a à dire que les autres ne diront pas. Or, la quintessence même de Marianne, c'est d'être toujours dans la radicalisation de la différence. C'est-à-dire cette idée que si on n'a rien à dire de plus que les autres sur un sujet, ce n'est pas la peine d'en parler. Même si c'est le fait le plus majeur de la semaine, ce n'est pas la peine de répéter ce que les autres vont dire.
Mais ça signifie, erreur peut-être fréquente des directeurs de rédaction, c'est qu'ils pensent toujours par rapport aux autres. Or, un lecteur, il lit pas 5 journaux, il n'en lit qu'un. Donc au fond, est-ce qu'il n'y a pas un problème de ne...
Alors, ça, c'est vrai pour un quotidien. En revanche, nous sommes un hebdomadaire. Cela dit, les pratiques de lecture sont en train de changer.
Notamment du fait du numérique, bien sûr.
Bien sûr.
Vous pouvez balader de l'un à l'autre.
On peut dire globalement qu'il y a encore 20 ans, les pratiques de lecture, c'était assez souvent, surtout pour les lecteurs de Marianne, nous sommes le seul hebdo qui a plus de lecteurs en province qu'à Paris. La pratique de lecture, c'était très souvent un titre de presse quotidienne régionale et un hebdomadaire. Bon, je pense que ces choses-là sont en train d'évoluer, mais de fait, nos lecteurs, ils sont surinformés. Ils ont les réseaux sociaux, ils ont la télévision, ils ont Internet. Donc la question, c'est de savoir ce que nous leur apportons
en
plus.
Donc se différencier.
Mais bien sûr, les faits bruts, ils les auront. Le décryptage, les enquêtes, ce que nous allons aller chercher, que d'autres ne seront pas allés chercher, ça c'est important.
Avec combien vous avez de cartes de presse? 35, quelque chose comme ça à peu près?
Oui, à peu près 35.
Donc une petite quarantaine de personnes, une somme d'identité d'ailleurs, avec des journalistes de terrain, des enquêteurs, des investigateurs, mais aussi beaucoup d'autres journalistes dont vous avez hérité. On peut avoir des nouvelles enquêtes? On peut vraiment avoir assez de contenu pour...
Regardez ce qu'on arrive à faire. C'est-à-dire quand même, il faut savoir, l'Express, c'est quoi? C'est 120, 130 cartes de presse à peu près.
C'est énorme en comparaison.
Et nous faisons un hebdo avec 30, 35 cartes de presse. C'est-à-dire, et pourtant, si vous lisez Marianne, toutes les semaines, vous avez des dossiers qui sont des dossiers d'enquête. Regardez, quand nous avons sorti une enquête sur l'université et la façon dont les indigénistes, tous ces groupes racialistes sont en train d'investir
l'offensive
petit à petit.
Des obsédés de la race, du sexe, du genre et de l'identité.
Exactement.
Je cite la une
excellente enquête d'Étienne Girard, Adrien Matou, dans les écoles de journalisme, dans les syndicats, etc. C'est une enquête de fond. Ça, c'est un travail de longue haleine. Et nous faisons très attention à avoir toutes les semaines ce genre de dossier. Nous avons sorti, par exemple, les chiffres de l'argent des impôts. Où va l'argent des prélèvements obligatoires? C'est un travail que nous avons fait en collaboration avec l'OFCE, qui calcule sur 20 ans, comment ont évolué les dépenses de l'État. C'est un travail de fond, là aussi, vous voyez.
Alors, quand on regarde Marianne, au fond, on pourrait dire qu'il y a eu 5, il y a peut-être eu davantage de Marianne, le Marianne de Jean-François Kahn, qui d'ailleurs est revenu comme chroniqueur, celui de Maurice Safran, Nicolas Domenac, Laurent Neumann, avec Philippe Cohen, par exemple. Regretter que tout le monde continue à aimer, d'ailleurs, quelle que soit un peu sa tendance à Marianne. Il y a le Marianne de Joseph Massescaron, celui de Renaud Delis plus récemment, et puis le vôtre. Il y a un ADN de Marianne, ou c'est une sorte de...
Moi, je crois profondément qu'il y a un ADN de Marianne. Je veux dire, moi, j'ai commencé dans le journalisme avec Jean-François Kahn, et j'ai appris de Jean-François Kahn. C'est-à-dire que ma vision du journalisme, je la tiens de lui. Cette idée que, en effet, il faut radicaliser la différence, que les faits ne suffisent pas. Jean-François racontait toujours comment, lors de Septembre Noir, lui était au cœur. Il se trouve que par hasard, il était sorti de l'hôtel, il se baladait dans la ville. Tous les autres journalistes étaient coincés dans l'hôtel. Il était au milieu du terrain. Il n'a rien compris parce qu'il ne voyait que des gens qui se tiraient dessus. Et ce sont ses confrères qui étaient coincés à l'hôtel qui lui ont expliqué parce qu'ils avaient vu les informations. Vous voyez, donc il disait toujours, les faits ne suffisent pas si on ne comprend pas ce qui se passe. D'où l'intérêt d'avoir aussi de la...
Alors du coup,
politique.
C'est pour vous, c'est quoi cet ADN de Marianne? Comment est-ce que vous définiriez ce journal qu'on a entre alors souverainisme, populisme, parfois de droite, parfois de gauche, parfois anti-système, etc. On a du mal à saisir.
Alors, c'est un journal qui a toujours en effet été accusé, par exemple, même du temps
mais
de Jean-François.
Mais c'est pas non plus une accusation.
Non, mais je sais, mais du temps de Jean-François, moi j'entendais toujours, alors en gros, les gens de gauche le trouvaient crypto-fasciste, les gens de droite le trouvaient horriblement gauchiste. C'est un journal qui est profondément républicain, et ça a un sens. Nous prenons ça au
la
sens
laïcité.
Le plus profond. C'est-à-dire qui défend le bien commun. L'idée que l'espace public doit être préservé contre l'appropriation par des intérêts privés, que ce soit des intérêts religieux, que ce soit des intérêts financiers, d'où l'importance de la défense de la laïcité, mais aussi la lutte contre les lobbies, contre tous ceux qui abusent du système. C'est une défense de tous ceux qui sont sans défense et qui n'ont que le bien commun comme patrimoine.
Quand on prend des grands syndicats, je pense à la définition par exemple d'un syndicat comme la CFDT, mais c'est vrai aussi de la CFTC, parfois aussi d'autres syndicats plus spécifiques. Au fond, c'est l'idée de toujours défendre des positions que tous les sous-syndicats peuvent défendre. C'est-à-dire au fond, les contradictions de la société on doit trouver un espace commun, ce que vous venez de dire. Sauf que quand on lit Marianne, on a l'impression que parfois on attaque une catégorie, puis une autre, puis un sujet, puis un autre, mais tout ça ne fait pas cohérence dans le sens où ça ne serait pas gouverné. On ne pourrait pas, si vous voulez, à la fois baisser les impôts et permettre aux hôpitaux de mieux fonctionner.
Mais
pour aller vite.
Justement, si, et je peux vous expliquer pourquoi. On peut baisser les impôts sur certaines catégories en rétablissant de la justice fiscale. Et utiliser, faire en sorte qu'il y ait des rentrées d'argent pour l'État en luttant à la fois contre l'optimisation fiscale et en réindustrialisant le pays, ce qui permet que l'État ait des subsides pour payer des hôpitaux. Donc vous voyez que ce n'est pas contradictoire. Et bien c'est exactement pareil à Marianne.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
19h39 en direct sur France Culture, Natacha Polony, directrice de Marianne, est mon invitée ce soir. Nous avons évoqué votre parcours, on a évoqué l'ADN de Marianne. Une question de Zoé Sfez.
Mais alors oui, avec la question, on peut recouper sur cette question du positionnement politique. Vous disiez qu'elle a évolué, cette rédaction. Jean-François Kahn disait que c'était du centrisme révolutionnaire, je crois que c'était ça le fameux concept. Quand c'est finalement Renaud Delis ou Joseph Massescaron qui sont arrivés, il a dit que peut-être il venait en tant qu'éditorialiste, mais s'il n'était pas fondateur, il serait peut-être pas assez à gauche pour écrire dedans. Aujourd'hui, vous avez des thématiques qui parfois peuvent perdre votre lectorat. Vous avez fait une sur l'immigration qui s'appelait « Et si on disait la vérité », qui a donné lieu sur certains réseaux sociaux à des grandes annonces de désabonnement. Justement, vous diriez que sur certains thèmes, vous êtes où? Quels sont vos peut-être vos limites, les endroits où vous vous situez dans des domaines traditionnellement de gauche ou pas?
Alors, vous savez que cette une sur l'immigration était au contraire totalement dans l'ADN de Marianne. D'ailleurs, j'en avais discuté avec Jean-François et il m'avait dit c'est vraiment ce genre de truc en effet qu'il faut faire. On discutait, il me disait moi je trouve qu'il y en a ras-le-bol d'être obligé de choisir entre Zemmour et Plenel, c'est hors de question. Et je lui dis c'est exactement ce que je dis depuis des années. Donc j'ai titré le papier intérieur ni Zemmour ni Plenel. Donc là pour le coup on était dans l'ADN strict de Marianne. Quand Jean-François a créé Marianne, c'était pour dire qu'il n'y avait pas de sujet interdit et que les sujets qu'on était en train d'abandonner, c'était en 97, hein, il expliquait que les sujets qu'on était en train d'abandonner au Front National, que ce soit la nation, que ce soit les questions d'immigration, de sécurité, c'était une folie de faire ça. Eh bien, je pense qu'il avait raison. Et je pense qu'il faut se réapproprier ces sujets-là et les traiter sans tabou, mais avec systématiquement cette idée à la fois de générosité, d'ouverture et en même temps de prise en compte des angoisses et des peurs de certains types de populations. C'est-à-dire toujours cette idée de la ligne de crête, ne pas basculer dans un excès ou dans un autre. Et quand Jean-François parlait de centrisme révolutionnaire, c'était ça son idée. C'est-à-dire...
Au fond, ça veut rien dire aussi, centrisme révolutionnaire.
Alors, si,
c'est une belle formule, peut-être.
C'est une formule géniale et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que on n'est pas bloqué dans un camp, on ne bascule pas dans la droite ou dans la gauche en estimant que l'autre en face est un salaud parce qu'il est dans le camp d'en face. Donc on dépasse cela. En revanche, on est pour une révolution parce qu'il faut, et c'est la grande phrase de Jean-François Kahn et je la fais mienne, il faut remettre l'homme au centre, l'être humain au centre de la société et non pas le profit, les intérêts ou alors, pour quand on était étatiste et communiste, eh bien la machine étatiste. Remettre l'être humain au centre.
Quand on vous lit ce week-end, votre éditorial, mais c'était déjà vrai d'un certain nombre de papiers antérieurement, ça s'appelle Illusion perdue d'ailleurs, référence assez claire, on a le sentiment qu'il y a une rupture avec Macron. Quand on en parlera après, quand on a les chiffres de vente, Marianne était exceptionnelle en kiosque, notamment un peu avant la campagne présidentielle de 2007, notamment dans l'anti-sarkozisme. Est-ce qu'il y a une volonté de renouer avec une forme d'anti-sarkozisme à travers la critique à Macron qui pourrait permettre à Marianne de retrouver des lecteurs?
Jamais de systématisme. C'est-à-dire que c'était Jean-François Kahn, là aussi, qui a positionné le journal sur l'anti-sarkozisme avec ce fameux papier juste avant, à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, qui s'appelait « Le vrai Sarkozy ». À l'époque d'ailleurs, une part de la rédaction, Nicolas de Menac, Maurice Safran, avait refusé de co-signer le papier. Alors même que Jean-François le leur demandait. Donc il y avait un clivage. Et c'est Jean-François qui avait imposé ça. Et par la suite, sans doute y a-t-il eu un excès. Or, il ne faut jamais être dans le systématisme et dans l'excès. Le but n'est pas de taper Emmanuel Macron. On s'en fiche, c'est pas ça qui est important. C'est d'essayer de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre et pourquoi il peut y avoir aujourd'hui de la déception. Qu'est-ce qui s'est passé qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir? Et c'est ce que j'essaye d'analyser dans cet éditorial. Quelles sont les forces qui l'ont mis là? Pourquoi on en arrive là? Mais aussi, pourquoi la mécanique se grippe?
Le titre de une porte sur le bilan économique. Malgré tout, le titre est très fort. Hein. Macron, pire que Sarkozy, est aussi mauvais que Hollande.
Et ça, c'est une analyse de chiffres faite en partenariat avec l'OFCE. C'est un travail d'analyse économique.
Sur justement les rentrées aujourd'hui de Marianne, je crois que pendant très longtemps, Marianne a été un des titres de la presse magazine qui dépendait le moins de la publicité. Dans les années 2000, on était à 95%, je crois, des rentrées économiques de Marianne qui venaient tout simplement de ses abonnements et de ses ventes en kiosque. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'on sait que fatalement, même si on s'en défend toujours, ça a une influence évidemment, à la part de la publicité et aussi donc la question des annonceurs, du type que de lectorat qu'ils recherchent. Où on en est aujourd'hui?
Alors, pour compléter cette question, il y a deux singularités de Marianne par rapport aux autres hebdos. Peu d'abonnés et peu de publicité, voire pas du tout parfois.
Alors là aussi, c'est historique. En effet, Marianne, il n'y a jamais eu. C'était pas volontaire. C'est que le premier numéro de Marianne en 1997, c'était Serge Dassault, empereur mondial de la corruption. Et du coup, les annonceurs ne sont pas venus. Bon, et c'est resté. Il y a eu des périodes où il y avait plus de publicité, mais globalement, il vous suffit d'ouvrir le journal pour voir que nous ne dépendons clairement pas de nos annonceurs.
Quand on regarde les ventes, je le disais tout à l'heure, elles étaient très hautes au moment de l'anti-sarkozisme. Aujourd'hui, si on suit les chiffres que vous avez déclarés en 2018, c'est 120 000 à peu près exemplaires, 129 000 plus précisément, dont essentiellement des ventes en kiosque qui sont autour de 32-35 000 à peu près en ce moment, ce qui est relativement bien puisque l'Express fait entre 15 000 et 20 000, l'Obs entre 20 et 25 000, donc vous êtes mieux que ces deux journaux. Le Point fait plutôt entre 40 et 50 000, donc vous êtes le deuxième hebdo français. Mmh. Le seul problème que vous avez, c'est qu'il n'y a personne d'autre. C'est que concrètement, vous avez très peu d'abonnés par rapport à tous ceux qui offraient des réveils et des machines à laver quasiment gratuites pour avoir des abonnements.
Marianne n'a jamais eu cette politique de conquérir des abonnés qui lui auraient coûté plus cher que ce qu'il rapportait. Ce n'était pas dans l'idée.
C'était logique publicitaire d'ailleurs.
Oui,
aussi.
Bien
c'est
sûr.
Pour offrir aux publicitaires un grand nombre de lecteurs.
Exactement. Et nous pensons qu'un achat de journal, c'est un acte militant. Et d'où l'importance de la vente en kiosque, d'où l'importance de défendre les kiosquiers et les points de vente partout. C'est-à-dire que nous pensons qu'il faut toutes les semaines que nous arrivions à motiver le lecteur pour qu'il vienne nous lire. Donc c'est un pari et c'est un pacte.
Malgré tout, leur nombre diminue, et notamment en kiosque, puisque je l'ai dit, vous avez pu être à 400 000, aujourd'hui autour de 35 000. Disons,
c'était exceptionnel, 400 000.
Absolument.
C'était les deux papiers de Jean-François Kahn en 2007 sur Sarkozy.
Mais disons 200 000, elle a aujourd'hui 35 000. Qu'est-ce qui s'est passé avec encore moins 21% de diffusion l'année dernière? C'est pas vous qui en êtes responsable, puisque c'est les chiffres 2018 et vous venez d'arriver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez changer?
Il y a deux choses qui se conjuguent. Il y a évidemment la crise générale de la presse et en particulier de la presse hebdomadaire. Et le modèle du news magazine doit être interrogé. Je le disais, le modèle, on lit un titre de PQR et un news magazine, c'est terminé. Donc il faut se demander quel rythme nous devons adopter et ce que nous devons offrir. Et puis après, il y a le fait que sans doute Marianne s'était perdue. Que Marianne, justement, les lecteurs ne comprenaient plus ce qu'ils pouvaient venir
un
chercher.
Jour, pro-chevènement, puis pro-Beyrouth, puis pro-Hollande, pour le dire rapidement.
Oui, et puis justement, cette question de la défense du bien commun, cette capacité à être différent des autres, avait été petit à petit émoussée. Et donc, mon rôle à moi, c'est de retrouver ça, c'est-à-dire de refaire de Marianne un journal original qui ne s'interdit pas de penser différemment des autres.
Et le revers de la médaille, c'est pas aussi d'être tenté de faire des couvertures. Moi, je suis désolée, je le dis très franchement, j'ai eu des conversations avec des journalistes de Marianne qui me disent, moi, je fais des papiers super sur la une de l'immigration. Évidemment, les unes, on les pousse, parce que comme on est un journal qui se vend en kiosque, on a aussi intérêt à avoir des dossiers.
Alors là, je vous invite à aller regarder les unes de Marianne de l'origine, hein, dans les années 97, 98, 2000. Je peux vous dire qu'elles étaient autrement plus culotté que ce que je fais moi.
Quand on regarde votre lectorat, il a quand même quelques caractéristiques. D'abord, il y a beaucoup moins de CSP+, que les autres hebdos,
oui.
Donc beaucoup plus de classes populaires, de catégories B et C de la fonction publique, d'employés. Donc ça, vous essayez de conserver ça comment?
Mais tout simplement en n'étant pas un journal de l'élite pour l'élite. Nous essayons de parler à la France telle qu'elle est. Vous savez, sur la question de ce qu'on a appelé le mouvement des Gilets jaunes, et c'est pas un hasard si 80% des Français, au départ, soutenaient ce mouvement. Mais ça n'a fait que reprendre des thématiques qui étaient celles de Marianne depuis des années. La désertification des territoires, le recul des services publics, nous, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. C'était le cœur du discours de Marianne. Donc, c'est ce travail-là, aller regarder la France dans toutes ses dimensions, les gens dont on ne parle pas, les invisibles, tout ça, c'est un travail que nous faisons depuis très longtemps.
Un mot sur l'actionnaire. Ce journal a été racheté l'été dernier, disons en juillet à peu près, notamment par un milliardaire assez incompris, disons, positivement ou méconnu, un peu plus désormais. Je pense notamment à un bon article de Sophie Desdésert dans Vanity Fair qui en a fait le portrait, ou évidemment aussi aux articles qu'en ont fait Le Monde. Il s'appelle Daniel Kretinsky, avec un « et » pour ne pas dire... on peut dire Kretinsky ?
Kretinsky, ça se prononce.
Voilà, on peut le dire à la tchèque. Qui est-il? Vous inquiete-t-il et que vous...
C'est lui qui vous a recruté, non?
Oui, oui, c'est lui qui m'a recruté, oui, bien sûr.
Avec lui.
Oui, oui, et pourtant, nous n'avons pas la même vision du monde, très clairement.
C'est quelqu'un, quoi sa vision?
C'est quelqu'un qui est profondément et intrinsèquement libéral, et même, j'allais dire, néolibéral, parce que moi je suis pour une forme de libéralisme. Lui, il pense que la mondialisation est un bienfait, vous voyez, il est pro-européen farouche, donc Et il m'a prise parce qu'il pensait que c'est moi qui correspondais le mieux à ce que devait être Marianne. C'est-à-dire qu'il a joué son rôle d'actionnaire. Il pense qu'il faut mettre à la tête d'un journal quelqu'un qui correspond au message de ce journal et pas quelqu'un qui lui plaît à lui idéologiquement. Parce qu'il estime qu'en tant qu'actionnaire, il n'a pas à donner son avis sur le contenu du journal. Ça me semble plutôt agréable et plutôt pas mal.
Mais tout en étant effectivement tout ce que vous dites, il est aussi, on sait qu'il est potentiellement, il a des proximités au Kremlin, donc vous pourriez vous rejoindre aussi.
Non mais attendez.
Ça n'a pas été prouvé pour l'instant. Ouais.
Rien. Ça c'est dit. Non mais c'est très marrant. C'est-à-dire que les premiers portraits qui ont été faits de lui quand il a racheté Marianne, comme Marianne est malgré tout un petit journal, disons-le, c'était des portraits plutôt sympathiques, etc.
Quand il a commencé à
mettre le pied dans le monde, on a expliqué qu'il était proche du Kremlin. Mais pardon, mais
Sauf qu'il n'y a
pas la moindre preuve.
Il n'y a pas de preuve, mais il y a des indices, en tout cas, évidemment, forcément des dialogues qui ont eu lieu. On l'accuse aussi, et ça c'est, je renvoie encore au papier de Sophie Desdéserts, d'être le premier pollueur de la zone euro, deuxième plus gros émetteur de COD à partir des centrales à charbon. Le troisième responsable en termes de morts imputées à la pollution.
Alors, ça, on est d'accord. Mais vous savez, hélas...
C'est pas bien.
Non, mais, sauf que, hélas, aujourd'hui, les journaux, les médias sont possédés par ceux qui ont suffisamment d'argent pour payer ça. Parce que les médias n'arrivent plus à vivre simplement de leurs lecteurs. Je le déplore. C'est dommage. Donc, aujourd'hui, si Marianne n'avait pas été en dépôt de bilan il y a 2 ans, eh bien, je ne serais pas là parce que Daniel Chretinsky n'aurait pas racheté Marianne.
Il n'y
aurait plus Marianne s'il n'avait pas été là.
Son adjoint en France, celui qui pilote un petit peu ce groupe, s'appelle Denis Oliven. Il y a eu un certain nombre de critiques aussi sur son arrivée, liée notamment à la vente à ce milliardaire tchèque les parts du groupe Lagardère, dont il était à ce moment-là l'ancien patron. Sans rentrer dans ces détails-là, vous craignez une sorte d'action de cet actionnaire intermédiaire, Denis Oliven, qui a été connu, que ce soit bien sûr au Nouvel Obs, dans sa tentative du rachat du Monde, mais aussi au JDD ou à Paris Match, pour avoir un côté un peu interventionniste parfois.
Alors écoutez, Denis Oliven m'avait embauché à la revue de presse d'Europe 1, c'est lui qui m'avait embauché. Là aussi c'est pareil, nous n'avons rien idéologiquement en commun. Dans le sens où il est, alors lui, très libéral, plutôt progressiste dans le sens sociétal,
les Gracques,
pro-européen, etc. Le contraire de tout ce que je défends. Jamais je n'ai eu la moindre remarque sur le contenu de ma revue de presse à Europe 1. Pendant les 5 ans où j'ai fait cette revue de presse, j'étais totalement libre. Et là, à Marianne, c'est pareil, jamais je n'ai la moindre remarque sur ce que je fais, même quand il y a des enquêtes du journal que nous sortons. Par exemple, quand nous faisons une sur le rapport de la Cour des comptes sur la fondation Louis Vuitton, c'est pas un hasard si nos confrères dans la presse ne nous reprennent pas. C'est parce que personne ne sort ce genre de choses. Nous le sortons, je n'ai pas un mot des actionnaires.
Quand est-ce que la vente a été proposée, notamment à Chaise Martin, à l'époque qui possédait Marianne, qui est toujours d'ailleurs dans l'équipe, puisqu'il a toujours un rôle dans le conseil d'administration, dans le groupe. On parle d'avril 2018, d'autres disent que c'est beaucoup plus tôt en fait, dès la fin de l'année 2017. Quand est-ce que vous avez rencontré le milliardaire ?
Ah, moi l'été dernier.
L'été dernier.
L'été 2018. Il se trouve que je discutais avec Yves de Chaise Martin depuis déjà longtemps parce que il avait pensé à me faire venir depuis 4 ans déjà. Mais je n'ai rencontré Daniel Chretinsky donc au mois d'août 2018.
On vous donne des moyens puisqu'on a l'impression qu'il y a eu, à cause d'un plat des départs qui est classique dans la presse, un certain nombre de départs pour le coup. On vous donne les moyens pour les remplacer. Quelle est votre marge de manœuvre pour construire une rédaction un peu à votre image avec un vrai projet que vous
soyons clairs,
défendez?
Un journal, c'est une mécanique compliquée. En effet, il y a eu des départs et je peux remplacer poste à poste, enfin personne à personne. Voilà, tous ceux qui partent. En revanche, il va falloir petit à petit construire un investissement, avoir de quoi se développer sur Internet, puisque Marianne est en train de passer en bimédia, c'est-à-dire que nous voulons absolument qu'il y ait une stratégie qui soit une stratégie globale. Donc ça, c'est un travail qui nécessite d'investir.
Pour l'instant, sur ce registre, les ventes sont très basses, puisque vous avez parmi les plus basses, je crois, à peu près 2000 abonnés en vente numérique, ce qui est très faible.
Exactement, mais nous avons augmenté, là, sur les derniers mois.
Bah, de 2000, c'est pas difficile.
La question. Bah oui, c'est pas difficile, mais tout de même. Et c'est pas difficile. Pardon.
C'est mieux ça que de diminuer.
Sans avoir de quoi se payer de campagne de promo, de campagne de mailing, d'abonnement comme d'autres journaux. Pardon. Mais c'est plutôt pas mal. Et on a une équipe qui fait un travail formidable. On est une rédaction qui travaille en bimédia désormais. Tout ça va finir par payer, tout simplement.
Bah justement, mais ça prend question, du temps. Effectivement, vous l'avez dit, poste à poste. Mais à un moment donné, quand on va investir dans le numérique, on perd théorie des journalistes de terrain, ou alors on engage plus de journalistes dans le numérique. Comment vont regarder les évolutions de ce que pourrait être Marianne dans 5 ans, en fait, en tant que bimédia, 5 ou 6 ans?
Vous savez, c'est une vie. Notre mode de fonctionnement en bimédia, c'est le fait qu'il n'y a pas justement des journalistes internet et des journalistes de terrain. Tous les journalistes font du terrain et nourrissent à la fois le magazine papier et le site. Et nous arbitrons en fonction de ce que nous pensons devoir mettre sur le site, c'est-à-dire ce qui va intéresser le lectorat du site. Et nous avons des enquêtes qui sont des enquêtes de fond, qui sont publiées directement sur le site. Nous pratiquons ce qu'on appelle le reverse publishing, c'est-à-dire quand une enquête est très intéressante, qu'elle a été publiée sur le site, nous ne nous interdisons pas de la republier sur le magazine papier. Mais tous les journalistes participent aux deux, bien entendu.
Et des rapprochements possibles avec Elle, Télé 7 jours, le fameux version Femina qui est le supplément toujours dans votre groupe, ou à terme même avec Le Monde, pourquoi pas?
Écoutez, pour l'instant, on n'en est pas là, vous voyez. Pour l'instant, on est en train de se battre pour que Marianne puisse réexister, se développer. On est en train de repositionner le journal, de faire qu'il existe dans le paysage médiatique. Après, il sera bien temps
de
voir ce qu'on peut faire dans le groupe.
Il peut y avoir des rapprochements en termes de ce qu'on appelle le back-office, les services juridiques, l'impression,
il y a tout simplement des économies d'échelle à faire, et c'est l'avantage d'être dans un groupe, évidemment.
Quand on interroge vos collaborateurs, notamment dans la rédaction, qui sont étonnamment d'ailleurs, on avait parlé des tensions, beaucoup de départs, etc. En fait, les gens, en tout cas ceux qui sont restés, vous aiment bien, semble-t-il, et ils disent, je les cite, elle travaille, elle incarne le journal, elle porte le journal, elle le définit et elle le symbolise, elle le représente à l'extérieur. On a en même temps l'impression que c'est une somme d'identité, Marianne, avec au fond des courants assez divers. On pourrait citer un certain nombre de noms, mais de Clara Dupont-Monod, en passant par Éric de Coutine, Hervé Nathan, Gérald Andrieux, que vous avez fait venir d'ailleurs, qui était parmi vos proches, des gens comme Stéphane Bourg, ou dans un autre registre, Laurent Valdiguier. C'est des gens qui partent dans tout un tas de directions. Comment est-ce qu'on crée, comment la mayonnaise prend?
Alors, tout journal est une somme d'identité, dans le sens
mais
où
le grand écart est plus grand en Marianne qu'ailleurs.
Les journalistes, plus ils ont du talent, plus
ils ont des singularités,
des spécificités. Vous citiez tout à l'heure Philippe Cohen, qui a en effet incarné aussi une part de l'histoire de Marianne. Il était différent de Jean-François Kahn. Il a souffert beaucoup sous la direction de Maurice Safran, de Nicolas Demenac, et il a été viré.
Il dirigeait le web à ce moment-là.
Voilà, ouais, et il a été licencié de Marianne. Donc vous voyez qu'il y a des complexités.
Mort,
ouais. Voilà, il y a des difficultés, des tensions et des choses terribles. Là, nous sommes une équipe où j'espère respecter toutes les identités, et je veux au contraire les valoriser. Et justement, parce qu'il y a des gens intéressants, on va réussir à faire un excellent journal.
Ça veut dire qu'on peut être, et vous pouvez être parfois un peu agressif ou cassante dans des émissions de télé, à la radio ou sur Twitter, et en même temps, dans une rédaction, être une autre Natacha Polonis, que les gens semblent dire, on écoute, on respecte des gens qui sont complètement en désaccord avec vous.
S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est de travailler dans le rapport de force. C'est-à-dire que moi, j'estime les gens avec qui je travaille. D'abord, je mets un point d'honneur à nommer des gens, quand je recrute, des gens que j'estime meilleurs que moi et qui sont complémentaires. Vous avez cité Gérald Andrieux, j'ai fait venir Franck Dedieu qui est excellent sur les questions économiques. Kevin
qui
Victoire,
est plutôt un souverainiste de gauche anti-européen et jeunementiste.
Voilà, Kevin Victoire qui est un jeune journaliste qui est maintenant rédacteur en chef Idée, qui avait fondé ce site formidable qui s'appelle Le Comptoir. Enfin, vous voyez, j'essaye de prendre des gens qui me semblent excellents parce que
beaucoup
je
viennent
pense
du comité Orwell d'ailleurs.
Nous enrichissons comme ça.
C'était quoi le comité Orwell?
C'est un regroupement de journalistes, tout simplement.
Qui voulait un peu lutter contre la pensée unique, c'était ça,
c'est
au fond,
ça.
L'idée.
Voilà, donc finalement, ça correspond à peu près au projet de Marianne, qui était de lutter contre la pensée unique. Voilà, donc ce sont des gens qui se sont regroupés, que je ne connaissais pas, nous nous sommes retrouvés, et du coup, j'ai appris à les connaître et à y trouver des gens intéressants.
Avec Peggy, ou je ne sais pas, peut-être Castoriadis ou d'autres, c'est un peu vos références, Orwell, on dirait ça pour terminer
bien
cette émission.
Bien sûr, George Orwell, bien entendu. On peut citer Jacques Ellul, parce que je pense que c'est un des penseurs les plus essentiels aujourd'hui. Le système technicien est un livre magistral. Vous citez Castoriadis, bien sûr. Vous voyez que c'est assez vaste comme panel. Hein, et encore, on pourrait citer la littérature, mais en tout cas politiquement...
Et vous citeriez qui dans la littérature plus...
Giono,
Giono,
Colette...
Giono, ça c'est le...
Giono, Colette sont
des... Le terrain,
sont
la
des...
France, la Provence d'ailleurs.
C'est la capacité par les mots à nommer les sensations et la beauté du monde. Voilà. Mmh. Or, je crois que c'est très important.
Nommer la beauté du monde. Voilà. On ne voit pas toujours ça à la une de Marianne, mais c'est peut-être une à venir.
Pas forcément,
sur la
pas forcément à la une, mais ça se loge dans certains articles.
Merci infiniment d'avoir été notre invitée ce soir, Natacha Polony.
Merci à vous.
Bon
pour
courage
votre
pour redresser la barre.
On le fait
et
à plusieurs.
Porter Marianne et la laïcité.
Merci beaucoup.
Il est 20h sur France Culture. Dans un instant, Zoé Sfès, votre invitée.
Le journaliste Étienne Huvert qui vient de rentrer en studio, qui signe aux éditions Stock les nouvelles guerres sur la piste des hackers russes, ainsi qu'un film Les Nouveaux Mercenaires Russes qui est diffusé cette semaine sur Arte. Mais qui sont ces hackers russes? On en parle tout de suite.
20h10, le Club de la Presse numérique. Nous parlerons de la modération des contenus haineux en ligne. Et nous serons pour en parler avec Amel Guiton de Libération et Christian Paul, ancien ministre et enseignant à Sciences Po Lyon. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur le site de France Culture, sur iTunes ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Il est 20h, Zoé Sfès.
Bonsoir Étienne Huvert.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste, vous faites partie des Happy Few qui sont Albert Londres, prix Albert Londres que vous avez obtenu il y a quelques années, fondateur du collectif de journalistes Snug News, et vous êtes là, donc je l'ai dit, parce que vous avez une belle actualité très russe, vous co-signez avec Boris Razon un livre qui s'intitule « Les nouvelles guerres sur la piste des hackers russes » qui est paru chez Stock en début de semaine, et il y a un documentaire où le réalisateur Félix Seguer et la productrice Marina Ladouce, parce qu'elle est mise en scène, finalement mettent en scène ces 2 ans d'enquête que vous avez fait tous les deux sur ces hackers russes. Alors cette enquête, vous le racontez d'ailleurs dans le livre, elle commence au moment où, pendant l'élection présidentielle, la campagne de 2017, l'équipe d'Emmanuel Macron est piratée par des hackers. Vous, à l'époque, vous ne travaillez pas du tout là-dessus.
On est sur le djihad.
Vous êtes sur le djihad, donc vous êtes déjà un petit peu dans les beautés de l'Internet.
Alors parce qu'on est sur les réseaux sociaux, déjà à l'époque, on enquête sur les femmes et le djihad et on essaye de pénétrer cette djihadosphère entre guillemets. Et à ce moment-là, autour de nous, on a des hackers qui viennent nous aider surtout à protéger nos communications, à protéger tout notre réseau informatique. Et puis, on commence à parler des hackers russes parce qu'il y a l'attaque du DNC en octobre 2016. Mmh. Et puis, rapidement, il y a les Macron Leaks. Et puis, on parle à nouveau des hackers russes. Et on se pose une question à ce moment-là qui est, mais c'est qui? On parle
c'est
de groupe.
Comment ils font? C'est qui? Et surtout, est-ce que, et c'est toute la question qui traverse, d'ailleurs, vous n'y apportez pas une réponse claire parce que la réalité est complexe, est-ce qu'ils travaillent pour le pouvoir ou est-ce qu'ils travaillent pour leur propre compte? Faire un film qui s'appelle Les Nouveaux Mercenaires donne un élément de réponse à cette question. Il y a eu, vous l'avez dit, il y a eu l'attaque évidemment du Parti démocrate, celle des Macron Leaks, et puis, et c'est le point de départ de votre livre, on en a beaucoup parlé ici à Soft Power puisque ce sont nos questions, mais c'est une date que les gens connaissent parfois beaucoup moins bien dans le grand public, celle du 27 juin 2017, l'attaque NotPetya, c'est en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on ait une idée simplement avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, de qu'est-ce que c'est que cette arme qu'est NotPetya? On est à la base sur un ransomware, on connaît assez bien ces logiciels qui sont là pour vous demander de l'argent en échange de vous laisser vos données et de ne pas vous les pirater. C'est une attaque qui a été extrêmement destructrice.
C'est une attaque qui était extrêmement violente en Ukraine, qui a touché beaucoup d'infrastructures publiques, d'administrations. Et au départ, c'est un malware, voilà. Donc c'est une sorte de virus qui a pénétré les réseaux informatiques ukrainiens de dizaines d'entreprises. Et puis ce malware, au départ, on a cru que c'était un ransomware, c'est-à-dire que il était fait pour donner
pour obtenir
une
rançon, de l'argent.
Voilà, obtenir de l'argent. Et puis en étudiant ce ransomware, les spécialistes informatiques se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait quasiment pas donner d'argent.
Et qu'il était juste là pour détruire.
Pour détruire toute l'infrastructure des entreprises qui touchaient. Et ça a été extrêmement dévastateur en Ukraine. Et pour les Ukrainiens, tout de suite, on a accusé la Russie parce que on est sur une ligne de front en Ukraine. Vous connaissez le contexte. Il y a eu cette guerre en 2014, la révolution de Maïdan, avec des groupes pro-russes qui ont pris l'est du pays. Et là, on voit un nouveau type d'arme, d'une certaine manière, qui permet de détruire des infrastructures à l'intérieur du pays sans même déplacer un soldat. Et ça, c'est extrêmement nouveau.
Effectivement, c'est toujours le fond du problème en cybersécurité, en cyberguerre. C'est la question de l'attribution de l'attaque. Et quand même, on arriverait à attribuer l'attaque, ce qui est très difficile. Il reste toujours très compliqué de savoir qui est derrière. Donc vous commencez à essayer un petit peu de comprendre qui ils sont, mais surtout comment ils procèdent, ces mercenaires russes. Vous avez avec vous, vous l'avez cité, Jean-Marc, qui est votre expert en cybersécurité. Puis vous rencontrez très vite ce personnage que vous avez baptisé Igor, c'est évidemment pas son nom, qui va être la personne qui va vraiment vous permettre de rentrer sur ces fameux forums du web parallèle où vous allez finir par, en tout cas, rentrer en communication avec des hackers russes.
Et vous dites très vite, mais en fait, pas si vite que ça. Ça a été un travail quasiment
très long.
D'une année, alors on a cherché beaucoup de choses pour rentrer. On savait qu'il y avait des forums sur lesquels on s'échange des malwares, où il y a beaucoup de choses qui s'échangent. Et on voulait rentrer pour voir, toucher de près, là, vraiment de manière concrète, ce qu'on pouvait trouver, et ce qui s'échangeait, et comment tout ça fonctionnait. Et on a cherché au départ des russophones. Beaucoup ont eu peur de venir travailler avec nous. Et après, on a cherché des spécialistes informatiques, comme Jean-Marc, par exemple. Mais Jean-Marc, il parlait pas le russe, donc c'était compliqué pour lui de nous accompagner. Et il a fait lui plusieurs mois pour trouver la personne qui à la fois avait les compétences linguistiques et les compétences techniques pour nous accompagner. Et ça, c'est vraiment 7-8 mois de travail, quoi.
Alors, je dis ça, évidemment, c'est pas parce que je les connais et que j'utilise leur prénom, c'est parce qu'on est dans un monde où l'anonymat est, on va dire, la norme absolue. Vous tombez effectivement sur ce forum qui est incroyable, avec effectivement une assez belle vision de la manière dont ça fonctionne, parce que quand on parle d'attaque, en fait, il y a plusieurs hackers à l'œuvre et surtout plusieurs stades, on va dire. Il y a des gens qui viennent, qui prennent les données, qui trouvent les failles. Parfois, on vous vend juste la faille, parfois, on vous vend les données, parfois, on vous vend... Qu'est-ce que vous trouvez, par exemple? Vous trouvez quoi sur ces forums? Qu'est-ce
Alors,
qu'ils vendent, ces hackers?
On est resté, sur ce forum un mois environ. On trouve des accès, surtout. On trouve des accès à des infrastructures, à des entreprises et même à des intérêts d'État. Et la chose la plus incroyable qu'on ait vue, c'est les données de tout le système judiciaire d'un État américain qui était mis en vente 150 000 euros. Alors vous dites, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et en fait, voilà, tout est fait pour que la confiance se fasse entre les vendeurs et
les acheteurs.
Il y a un système, ce qu'on appelle d'escrocs, c'est-à-dire il y a des gens qui sont intermédiaires, qui récupèrent l'argent et qui le libèrent une fois que la personne qui achète a pu voir que ce qui était vendu était bien arrivé
à bon port chez elle.
Et du coup, à la fin, on voit marqué solde. Et là, on est sûr que ça a été vendu. Et par exemple, ces données du système judiciaire d'un État américain ont été vendues en quasiment 15 jours ou 3 semaines. Puis après, il y a beaucoup de choses. On a vu les données d'un opérateur téléphonique portugais. Et puis, on a vu des données sur...
Du ministère de la Finance du Ghana,
incroyable,
par exemple. Voilà. Alors, effectivement, ces accès, c'est, vous le dites, la question, c'est qui les achète? On ne peut pas savoir. Ça peut être aussi bien les États, les entreprises qui, elles-mêmes, veulent montrer qu'elles ne sont pas vulnérables. Et ça peut être, évidemment, des gens qui ont envie de faire des malversations.
C'est justement ce qui est fascinant. Par exemple, ces données, elles étaient vendues par un groupe qui s'appelle Lampedusa. On peut penser qu'il est plutôt... russe, puisque les gens qui composent ce groupe parlent très bien le russe. Un russe courant nous a expliqué Igor, qui nous guidait sur ces forums. Mais il parle aussi très bien anglais, donc il peut aussi y avoir des personnes qui sont autour. Et surtout, tout est anonyme sur ces forums. Ça veut dire que le vendeur, on ne sait pas vraiment qui il est, et l'acheteur, encore moins. Et même le vendeur ne sait pas forcément à qui il vend.
Achète.
Et le premier acheteur, ça peut être la personne qui a été attaquée. C'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien imaginer, on sait que les Américains, que les services de renseignement américains ont aussi pignon sur rue sur ces forums. Ils viennent surveiller ce qui s'y passe parce qu'il y a des choses graves qui s'y vantent. Et quand ils voient marqué système judiciaire d'un État américain, je pense qu'ils peuvent avoir les moyens eux-mêmes d'aller acheter en priorité ces données-là.
Évidemment, là, on croise toute une foule de personnages passionnants dans ce livre. On croise ce qu'on appelle les white hats, c'est-à-dire ces hackers blancs, ces hackers qui ne veulent pas faire du mal, qui parfois travaillent pour des services secrets ou pas, qui le font à titre bénévole ou pas. Mais pour rentrer, finir en fait dans cette question très idiote de qui sont ces hackers russes, Vladimir Poutine, on le sait, le dit toujours, mais ce n'est pas moi qui commande ces attaques. S'il y a des attaques, c'est simplement que les hackers que j'ai, ils sont patriotes. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut répondre aujourd'hui, vous, au bout de 2 ans d'enquête? On a compris qu'en fait, ce cyberespace russe, il est un peu différent d'une autre. Il a été très vite, très très fort dans les années 2000. Et d'ailleurs, les hackers russes et les hackers ukrainiens travaillaient main dans la main. C'était le post-URSS avec un cyberespace très criminalisé où l'État laissait faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on est avec des hackers qui travaillent tout seuls en tant que patriotes? Est-ce qu'on est avec des hackers russes qui ont peur de leur État ou qui travaillent avec lui? Qu'est-ce que vous nous répondez à ça?
C'est un mélange d'un peu tout ça. Il y a des hackers qui sont indépendants parce que les hackers russes, ils sont pas forcément très différents des hackers français. Ils ont gardé cet état d'esprit indépendant.
Libertarien, d'aucun dirait.
Libertaire, etc. Ils aiment jouer de ces codes-là. Ils ont beaucoup appris aussi des hackers allemands, hackers français et occidentaux. Et à la fois, il y a toujours une fascination et un jeu avec le pouvoir. Et on imagine bien qu'en Russie, il est extrêmement difficile de garder son indépendance permanente vis-à-vis du pouvoir. Et le jeu est là, il est assez subtil et on le voit se dessiner par exemple avec un hacker qu'on a pu voir, il y avait un procès qui s'appelle Konstantin Kozlovski, et là vous rentrez dans un univers extrêmement étonnant, on est quasiment dans un univers de romans d'espionnage à la John le Carré, où à la fois les hackers peuvent devenir des agents de renseignement, et c'est extrêmement compliqué de savoir quelle est la réalité et le jeu. Ce qui est sûr, c'est que le FSB, les services de renseignement russes, ils ont des capacités techniques extrêmement fortes, qu'ils ont eux-mêmes des hackers dans leur service. On l'a vu parce que les services occidentaux ont réussi à le prouver récemment, notamment les services hollandais l'année dernière, et ils ont une capacité vraiment très forte à utiliser ce terreau de hacker, un terreau cybercriminel qui fait la spécificité de la Russie sans doute.
Merci beaucoup. Une dernière peut-être question, vous les croyez ces hackers quand ils vous disent finalement ce qui s'est passé en Ukraine avec NotPetya, c'est 10% des ordinateurs du pays et des centrales menacées, il y a même eu des problèmes potentiels, il pourrait y en avoir avec Tchernobyl, ça n'est qu'une répétition générale pour ce qui pourrait vous arriver, vous pays occidentaux, si la Russie un jour se mettait à vous vouloir du mal?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont sur cette ligne de front et qu'ils ont sans doute conscience avant nous du danger. Et ils nous le disent souvent, ils nous disent quand on était là-bas, ils vous répètent attention, ça peut vous arriver un jour. Et d'ailleurs, voilà, les Français aujourd'hui, comme beaucoup de pays occidentaux, commencent à se protéger. L'ANSSI, par exemple, en France, fait un énorme travail. Le ministère de la Défense également a embauché des cybersoldats. Donc oui, aujourd'hui, les États savent qu'ils peuvent être en danger. Il faut faire attention à cet engrenage.
Merci beaucoup, Étienne Huvert. Vous signez donc avec Boris Razon les nouvelles guerres sur la piste des hackers russes. Les nouveaux mercenaires russes, c'est diffusé ce mardi, je crois,
à 22h25.
Sur Arte, à 22h25. On vous conseille vivement de lire et de regarder tout cela.
Merci infiniment. 20h12 sur France Culture.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, on parle ce soir de la modération des contenus haineux en ligne. Harcèlement, menaces de mort, propos racistes, sexistes ou encore homophobes, apologie du terrorisme. Chaque jour, des messages d'insultes et de haine sont postés sur les réseaux sociaux, des agressions numériques, individuelles ou collectives, spontanées ou minutieusement préparées, qui ont des impacts bien réels dans le quotidien des personnes concernées, puis aussi d'ailleurs dans l'ambiance générale de la vie de beaucoup. Le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur et l'actualité de cette semaine nous a donné de nombreux prétextes pour nous demander si la modération de la haine en ligne ne serait pas une mission impossible. Alors, où en sommes-nous véritablement? Quelle responsabilité pour les éditeurs et plus largement les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram? Quels sont les moyens d'action envisagés? Pour en discuter ce soir, Christian Paul, ancien ministre et enseignant à Sciences Po Lyon, ainsi que Amel Guiton, journaliste à Libération. On commence par vous. D'abord, le phénomène, ensuite, quelle régulation le phénomène ?
Alors, de toute façon, la question de la modération, on voit bien que c'est un sujet qui revient à intervalles extrêmement réguliers, voire qui est là tout
chaque
le
jour.
Temps, mais qui, en tout cas, probablement prend en revanche des formes un peu différentes, parce que les thèmes évoluent. Il y a eu beaucoup la question, effectivement, des contenus d'apologie du terrorisme à une époque, on s'en souvient. En 2015, c'était le sujet, d'ailleurs, qui était beaucoup mis en avant par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui s'était déplacé dans la Silicon Valley. On a eu depuis, alors plutôt des questions d'appel à la haine et y compris d'impact que ça pouvait avoir dans certains pays. Facebook a été mis en cause à plusieurs reprises hein, sur le fait qu'effectivement il modérait insuffisamment certains appels à la haine dans certains pays. Effectivement, ça revient. Alors là, ce qui est assez présent ces jours-ci, c'est effectivement la question des appels à la haine de la part de suprémacistes blancs, nationalistes blancs, etc. post-Christchurch.
Après l'attaque
de Christchurch en Nouvelle-Zélande, et notamment parce qu'il y a eu la semaine dernière en fait une attaque à l'arme automatique à San Diego dans une synagogue qui a fait un mort et trois blessés, et de nouveau en fait l'attaquant avait alors d'abord annoncé sur un forum son intention d'y aller, et il avait essayé en fait de filmer en direct sur Facebook les faits, et donc on se retrouve effectivement dans un mode opératoire qui est très voisin hein, de celui de Christchurch. Et alors là, on voit bien qu'effectivement, les grandes plateformes de réseaux sociaux sont confrontées à ce type de problème et ont énormément de mal à y répondre. Alors Facebook annonce régulièrement des mesures. Hein. Ils ont annoncé un renforcement de leurs conditions d'utilisation. Ils essaient de limiter les copies de vidéos pour éviter qu'elles reviennent en ligne quand elles sont supprimées. Ils veulent aussi mettre en place une fonctionnalité qui ferait qu'un utilisateur qui aurait déjà enfreint les conditions d'utilisation ne pourrait plus poster de vidéos en direct. Sur Twitter, on voit que c'est encore plus compliqué, y compris d'ailleurs parce qu'il y a eu une enquête de Motherboard qui montre que ce que les gens de Twitter expliquent, c'est qu'en fait, s'ils commencent à utiliser par exemple de la détection algorithmique pour bannir certains propos effectivement particulièrement offensifs, ils risquent de se retrouver en fait à bloquer, y compris des membres du Parti républicain,
ou même Donald Trump,
soutien de Donald Trump. Mais le cas de Trump, effectivement, on est typiquement dans ce cas limite, c'est-à-dire que Twitter dit on ne peut pas bloquer Trump, y compris par exemple quand il balance des fake news ou quand il met en cause une députée musulmane, etc. Parce que effectivement les citoyens américains ont le droit de savoir ce que pense leur président. Mais voilà, on voit bien qu'on est effectivement dans des choses très complexes. Alors il y a aussi le cas de YouTube où ils renforcent leurs équipes de modération, mais en même temps on sait bien, pour l'avoir vu sur des tas de cas, que leur algorithme de recommandation pousse en fait un utilisateur qui aurait regardé tel type de vidéo à être en permanence renvoyé vers d'autres vidéos du même ordre. Enfin, on a l'impression qu'effectivement c'est une espèce de tonneau des Danaïdes perpétuelles, quoi.
Christian Paul, sur le diagnostic.
Oui, le phénomène est évidemment très très inquiétant et intrigant, parce que on ne peut pas évidemment douter un instant qu'il y a tous les jours en très grand nombre des contenus illicites qui sont en eux-mêmes des délits sur les réseaux sociaux. On voit bien l'impuissance d'une partie au moins des tentatives qui ont été faites pour modérer. Je rappelle d'ailleurs que les plateformes n'ont pas à proprement parler d'obligation juridique de surveillance. Simplement, elles ont une pression morale, politique, économique peut-être aussi très forte.
Pour l'instant, on y reviendra.
Et ce qu'il faut quand même aussi avoir en tête quand on aborde cette question, c'est que la haine, le racisme, l'antisémitisme ne sont pas nés avec les réseaux sociaux. Et il faut toujours s'interroger, avant de légiférer, puisqu'on parlera tout à l'heure de régulation, sur les motifs profonds de ce qui se joue dans une société et dans nos démocraties aujourd'hui. Car le racisme existait sans les réseaux sociaux dans les années 30, ou l'antisémitisme, le racisme dans les années 80 en France par exemple, s'est développé, l'antisémitisme également, sans YouTube, Facebook ou Twitter. Donc il ne faut pas confondre les causes et peut-être des vecteurs qui ont une fonction d'amplification, c'est probable, mais il faut toujours se rappeler que les phénomènes de fond ne naissent pas à cause des réseaux sociaux. En revanche, ce qu'il faut aussi avoir en tête quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que ils sont aussi, c'est quand même ça le point de départ de la révolution numérique, ils sont aussi des vecteurs de la liberté d'expression. Et donc, nous devons, dans nos démocraties, trouver toujours ce point d'équilibre entre la liberté d'expression et aussi, bien sûr, les divulgations permanentes de contenus illicites, mais aussi les abus qu'il pourrait y avoir dans l'exercice de la censure. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de trouver des solutions qui soient efficaces
et qui soient forcément en équilibre.
Parce que l'équilibre est difficile à trouver. Et surtout, on voit bien qu'en permanence, tous ceux qui veulent réagir, souvent sous le coup de l'émotion, à des drames, vous en avez cité, courent derrière le phénomène.
Alors, cette semaine, Facebook s'est attaqué à plusieurs comptes importants de personnalités et d'organismes considérés comme dangereux, entre guillemets, qui ont été bannis, ainsi que sur Instagram, des comptes comme ceux de Louis Farrakhan, pourtant fort connu à cause de la défense du séparatisme noir, ou encore d'Alex Jones, le fondateur d'Infowars, ou encore Milo Yiannopoulos, figure bien connue de l'alt-right. Quant à Twitter, le réseau social déclare réussir à avoir supprimé 91% des contenus terroristes diffusés sur sa plateforme, ce qui veut dire que 9% sont rester quand même, Malguiton.
Non, mais ceci étant, il faut effectivement aussi garder en tête le fait que, notamment depuis 2015, où effectivement ils ont été beaucoup mis en cause, notamment par les politiques et par les gouvernements. Peu à peu, ils mettent en place un certain nombre de choses, mais on a effectivement toujours l'impression que, d'une certaine manière, ça court après cette espèce de d'amplification et de viralité, parce que bien évidemment, ces plateformes, pour tout un tas de mouvements, elles permettent d'avoir une expression publique d'une certaine manière à moindre frais. Et c'est pour ça que, effectivement, les mouvements d'extrême droite y sont extrêmement présents. Et par ailleurs, ce qu'on voit bien aussi, c'est que quand on les chasse, quelques mouvements que ce soit qui va être entre guillemets chassé de Facebook, de Twitter ou de YouTube, va de toute façon réémerger sur d'autres plateformes. C'est ce qu'on avait vu notamment avec cette plateforme américaine qui s'appelait Gab, je crois bien, qui s'est retrouvé à être une espèce de plateforme complètement prise, enfin en tout cas investie très, très fortement par l'extrême droite, par exemple.
Alors si on en vient à la France plus spécifiquement, une entreprise qui s'appelle Netino, entreprise spécialisée dans la modération des contenus, vient de publier un panorama de la haine en ligne. Elle a analysé 10 000 commentaires, essentiellement sur Facebook. Elle constate qu'un commentaire sur 7 contient des propos haineux. Les plus visés seraient les politiques, puis les personnalités au sens large, enfin les médias ou les journalistes. Alors face à ce constat qu'on vient de faire ensemble, quelles sont les possibilités de régulation? Christian Paul, depuis quelques semaines, un projet de loi contre la haine sur Internet est en consultation publique. Ce sera jusqu'au 12 mai. Le débat aura lieu ensuite à l'Assemblée nationale en juin. Un projet de loi baptisé Avia, du nom de la députée La République En Marche, Laetitia Avia, qui l'a défendu, Christian Paul.
Je crois que quand on a affaire à des questions aussi complexes, dont le climat de grande passion qu'elle génère, il faut avoir quelques principes simples. Le premier, c'est évidemment la défense de la liberté d'expression. Il faut le redire, parce que on a quand même, on sent bien une volonté,
Facebook, Twitter,
on voit bien une volonté, et ça date depuis 20 ans, c'est une affaire qui a 20 ans d'âge, vous l'avez rappelé, on voit bien que il y a tentation de légiférer sous le coup de l'émotion, et on peut tout à fait comprendre que des personnes mises en cause personnellement ou en tant que collectif
le souhaitent,
et des réactions qui soient des réactions très passionnées, et bon, ici on va en parler avec un peu de sang-froid. Je crois qu'il est toujours important de rappeler que le droit n'est pas muet sur ces questions. Tous les contenus illicites dont on parle sont illicites parce que le droit le dit de façon expresse.
Mais pas on toujours sait bien suffisamment qu'on n'arrive pas à lutter contre
pas
ça.
Toujours oui, mais la deuxième chose, c'est que dans ces questions, avant de refaire du droit, de réécrire la loi, il faut appliquer celle qui existe. Et ce que l'on constate dans ce domaine depuis longtemps, c'est que la justice, en France et probablement ailleurs, n'a pas les moyens d'appliquer la loi. C'est ça la question essentielle. Et plutôt que de créer des milliers de postes de modérateurs chez Facebook ou dans d'autres réseaux sociaux, plutôt que de multiplier les organismes de veille, plutôt peut-être même d'ailleurs que de renforcer le pouvoir du CSA, donnons à la justice en France et ailleurs les moyens de travailler. Vous savez, je pense que quelques dizaines de magistrats, jeunes ou plus expérimentés, dédiés à la cause du combat contre les contenus illicites et plus généralement contre la cyberdélinquance, pourraient faire un boulot formidable. Donc on devrait commencer par ça, avant même d'écrire la loi ou avant même de chercher des solutions d'autorégulation qui souvent, même si elles sont nécessaires, peuvent conduire à beaucoup d'impuissance.
Amal Guiton.
Il ne faut pas oublier, par exemple, un cas comme celui de la journaliste Nadia Dame, hein, qui a porté plainte pour effectivement du cyberharcèlement, et ces cyberharceleurs ont été condamnés. C'est-à-dire que souvent,
mais combien de temps, combien de procédures, quel coût pour souvent des tweets, c'est-à-dire des choses qui sont rapides à faire, à refaire.
Oui, mais là, en l'occurrence, l'intérêt, y compris l'intérêt au-delà de son cas personnel, l'intérêt symbolique de cette histoire, c'était de faire la démonstration que effectivement, quand on émet des propos illicites et effectivement quand on pratique le harcèlement en ligne, on peut être condamné. C'est-à-dire, il n'y a pas, par rapport notamment à tous ces discours sur l'anonymat sur Internet, qu'on ne pourrait jamais remonter jusqu'au perpétrateur, etc. On voit bien que quand il y a plainte, on peut. Donc ça, c'est un premier point. Et alors, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Christian Paul, le Conseil national du numérique a regardé la proposition de loi Avia. Il a émis un avis qui est quand même assez critique, pour le coup. Et notamment, un des éléments, c'est de dire que le CNNUM, en l'occurrence, depuis des années, propose la création d'un parquet spécialisé pour la lutte contre les contenus illicites. C'est une piste qui n'a malheureusement jamais été explorée. Mais parce que le vrai problème, c'est qu'on voit bien aujourd'hui à quel point, en fait, parce qu'effectivement, il y a une massification de la parole en ligne et que les entreprises, enfin, les réseaux sociaux sont aussi, effectivement, sous pression et court en permanence après ça, on va sans arrêt chercher alors effectivement de l'autorégulation, on va mettre de l'IA partout, etc. Et ça veut dire qu'au final, le juge judiciaire, qui est censé être le garant de la liberté d'expression in fine dans un état de droit, est de plus en plus exclu et qu'effectivement on ne fait rien pour le remettre dans la boucle, et il faudrait peut-être effectivement commencer par ça.
Mais parce que justement, est-ce que c'est pas la réponse globale et pas la plus facile et peut-être probablement pas la plus appropriée. La crainte et en même temps la solution de facilité, ce serait de déléguer à des algorithmes et à de l'IA au niveau des plateformes, au niveau mondial. Alors qu'en France, on sait qu'on n'a pas les mêmes lois sur la liberté d'expression. Elle est défendue, mais elle est plus protectrice contre les propos haineux que ne l'est la loi aux États-Unis. Effectivement, le cas de Nadia Dame a créé une forme de précédent symbolique. Est-ce que vous seriez pour une réponse effectivement plus française, plus territorialisée, ou est-ce que finalement, on est sur un problème qui nous dépasse et qui, à terme, appelle ce que Mark Zuckerberg lui-même demandait en début d'année, une régulation internationale?
Christian Paul.
Alors, il est vrai que quand on parle d'Internet, la question des frontières arrive tout de suite. Appliquer l'intelligence artificielle, les algorithmes, quand on est Facebook, alors que la législation varie pays par pays, et on sait bien que aux États-Unis, le premier amendement de la Constitution permet de dire des choses qui, en France, tomberaient sous le coup de la loi. Donc, c'est objectivement très très difficile. Pour autant, on peut sans doute se poser la question de savoir comment on peut retirer ces contenus. Parce que c'est vrai que le juge sait punir, en tout cas il devrait savoir le faire, il sait retrouver l'auteur de l'infraction. La question, au fond, qui est dans le débat public aujourd'hui, c'est combien de temps des contenus comme ceux-là vont rester quand ils ont une grande viralité, quand ils sont effectivement l'occasion de la propagation, alors soit de fake news, on l'a vu ces derniers mois, la question est très présente, ou quand il s'agit d'images qui sont là pour provoquer, pour choquer, images d'attentats, images d'actes terroristes, etc. Et là, c'est vrai que la question, c'est comment, avec quelle rapidité, les plateformes peuvent retirer ces contenus. Et là, je dirais que c'est pas avant tout une affaire de loi, c'est une affaire d'organisation interne de ces plateformes. Elles n'ont pas une obligation de surveillance, a priori, elles ne pourraient pas le faire, mais en revanche, elles doivent retirer des contenus manifestement illicites de la façon la plus rapide possible. Alors, Laetitia Avia propose dans les 24 heures, il y a un texte européen en préparation qui dit une heure pour les contenus terroristes. On voit bien qu'il y a cette course-poursuite contre les contenus illicites sur Internet. C'est une affaire à la fois, je le rappelle, de bonne organisation de la justice. Il faut, encore une fois, rappeler les piliers de l'état de droit. Et c'est aussi, du point de vue de ces entreprises, mettre les moyens pour retirer les contenus.
Merci infiniment à tous les deux, Amel Guiton de Libération, Christian Paul, ancien ministre et enseignant à Sciences Po Lyon. Merci à vous, OSFS, d'avoir été dans cette émission ce soir, comme tous les dimanches. On va se quitter tranquillement avec Vampire Weekend, le titre 2021. Après 6 longues années de silence, le groupe new-yorkais d'indie rock est de retour, amené par son chanteur Ezra Koenig. La semaine prochaine, en Soft Power, nous consacrerons notre émission à l'écriture des séries télévisées avec le producteur du Bureau des Légendes, Alex Berger. Dans un instant, Carbone 14, j'ai encore le temps de vous signaler le prochain, la matinale de demain, matinale spéciale élection européenne avec Thierry Mariani, Marie Toussaint et Benoît Hamon. Tout ça, ce sera dans les matins de France Culture, à ne pas rater demain. Merci à vous tous, en attendant la matinale, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.